Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour Maud.
Bonjour.
Oh là là, j'espère que vous allez bien déjà, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que Maud, tu vas bien.
Mais j'espère que tu vas bien aussi et que vous passez un bon été.
Un bel été. On vous imagine sur la plage en train de vous faire dorer la pilule.
À la montagne en train de faire des randonnées dans les Alpes.
Ou peut-être tout simplement au travail en attendant que d'avoir, on espère pour vous en tout cas, des vacances.
Des vacances. Peut-être dans la voiture d'ailleurs.
Ah, excellente idée.
Excellent, peut-être que
sur
vous êtes
la
dans la
route.
Sur le chassé-croisé. Oh.
Chassé-croisé.
En ce week-end de retour de vacances.
Oh là là, incroyable.
Incroyable.
On vous parle cette semaine, on vous parle depuis 6 semaines maintenant de ce que ça signifie pour Maud et pour moi de bâtir un projet et un succès à long terme. Et là, cette semaine, on va discuter ensemble de se relancer, putain, le mec bafouille, dans un nouveau projet long.
Ouais.
Parce que toi, ça y est, t'as terminé ton premier bouquin.
Oui.
Et là, il est temps de se mettre au deuxième. Ça fait un petit moment que tu t'y es mis.
Ça fait un petit moment que je m'y mets, que je m'y suis mise. Et la question que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus dur ? Parce que, je m'explique, à la fois, c'est beaucoup plus serein parce que j'ai un éditeur, alors que pour le premier, j'avais personne qui m'attendait. Donc, il y avait quand même un peu... faut une petite force de caractère parce que là, je suis en train d'écrire alors que je pourrais faire autre chose et vraisemblablement, personne ne me lira jamais. Donc, il y a un petit peu la petite flamme dont on parlait dans les épisodes précédents de « si, si, il faut quand même continuer ». Donc là, il n'y a plus ça parce que j'ai un éditeur qui m'attend. Je sais que ce livre verra le jour. C'est beaucoup plus confortable. Et en même temps, tu me vois venir, il y a quand même la pression. Est-ce que ça va plaire autant ? Est-ce que je vais décevoir les gens qui avaient aimé mon mari ? Est-ce que je vais faire moins bien ? Est-ce que je vais être déçue de sa réception ?
Toi-même déçue ?
Moi-même déçue. Est-ce que ? Donc voilà, il y a un peu ce... quand tu refais quelque chose que tu avais réussi, en petit 1, comment ça se passe de refaire ?
Dans l'épisode précédent, tu as longuement parlé de justement comment tu te protégeais de tout ça.
Oui.
Pour éviter que de peut-être t'emballer.
Ouais.
C'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qui fait... pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu viens de t'octroyer, tu le disais dans l'épisode précédent, 6 mois pour pouvoir écrire. Donc déjà, rien que ça, c'est un changement énorme par rapport à ta vie d'avant.
C'est incroyable, oui. Forcément, mon quotidien a changé du tout au tout, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai du temps pour écrire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
Et parfois le samedi et le dimanche ou...
Non, justement.
Okay.
J'essaie de sanctuariser mes week-ends et mes soirées pour justement avoir une vie plus équilibrée où je travaille en semaine et le week-end, je vois mes proches.
Et t'es pas du style à te lever, à travailler la nuit, et tu vois, parce que l'inspiration te vient à ce moment-là?
Justement, j'essaie de faire en sorte que non, parce que déjà que j'ai plus d'horaire de bureau classique, ça me faisait un petit peu peur. J'avais peur rapidement de plus avoir d'heure de repas, puis de vivre la nuit, et puis d'être totalement décalé. Et j'avais besoin, pour ma santé mentale, d'essayer de garder un rythme un peu sain avec un emploi du temps.
Okay.
Donc non, j'essaie tant bien que mal de rester dans les clous. Mais il y a quand même ce truc effectivement grisant de si un soir j'ai envie de travailler tard parce que j'avance bien, et je travaille très tard et demain je me lèverai à 11h. Et ça c'est incroyable. Incroyable.
En quoi c'est incroyable ?
Parce que je fais ce que j'aime. Et en fait, je l'ai senti l'été dernier quand j'ai pris 3 mois de congé sans solde pour écrire. Où le dimanche soir, j'avais genre des petits guilis dans le vent d'excitation parce que je me disais, demain on est lundi, j'ai trop hâte. Et en fait, le fait de ne pas écrire le week-end, c'était aussi une manière pour moi d'accroître la frustration parce que j'y pense le week-end, mais je n'écris pas. Je me force entre guillemets à ne pas écrire. Et donc, le lundi matin, je suis genre, pleine.
T'as quand même toujours la tête dans ton roman ?
Ouais.
Même si t'es pas devant ton ordinateur, oui. J'imagine que ça ne te quitte jamais en fait.
Jamais. j'y suis toujours dedans, j'ai toujours un peu le nez dedans et j'y pense tout le temps. Mais le fait d'avoir des moments où j'écris pas, oui. En tout cas mon ordinateur n'est pas ouvert et je suis pas en train d'écrire sur mon ordinateur, bah c'est voilà, ça fait partie du processus et je me dis je le retrouverai encore mieux plus tard parce qu'il m'aura manqué. Mais voilà, quand je dis que c'est incroyable, c'est génial d'avoir des heures entières à y consacrer et de pouvoir travailler dans des conditions qui sont bonnes, c'est-à-dire après avoir une vraie nuit de sommeil, après avoir mangé un vrai repas. Et pas j'écris, tu vois, 2 heures un peu le soir en rentrant du travail parce que j'ai envie d'avancer, mais j'ai eu toute une journée devant moi, je suis crevée, j'ai pas mangé. Et c'est genre soit le repas, soit l'écriture. Mmh. Et pour moi, le luxe, c'est d'avoir et le repas, et le dodo, et l'écriture.
Et tu te sens meilleur de ce fait ? Parce que tu vois, je me disais peut-être qu'il peut y avoir un truc... Ou le fait de grinder, justement, tu vois, de galérer un peu et de te dire, OK, j'ai que 2 heures pour écrire, donc il faut que je sois hyper machin. Ça te met aussi peut-être dans une autre tension ?
Peut-être. J'arrive pas trop encore là à juger la valeur de mon deuxième texte.
Mais ton ressenti perso, en fait ?
Non, j'ai quand même l'impression que quand j'ai des heures entières à y consacrer, le texte s'améliore. Ouais. Donc non, fondamentalement, j'ai l'impression que plus j'y passe du temps, plus je l'améliore. Et donc, quand j'ai du temps, ça va plus vite que quand je le fais par tranche de 2 heures.
J'imagine.
Parce qu'il y a quelque chose de... où j'ai besoin, quand j'ai une journée entière, j'ai pas peur de faire des changements structurels. Là, c'est le cas, par exemple. Je suis en train de travailler sur ma deuxième partie. Et je me suis dit, oh, ça ne fonctionne pas. Et je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai toute la semaine, donc chut, je reprends. Et je change, et je bouge, et je bouge, et je bouge. Parce que... si j'avais que 2 heures, j'aurais peut-être été plus frileuse à vraiment les mettre les mains dedans. Donc non, c'est plutôt heureux et serein à ce moment-là.
Et
en ce moment.
Est-ce que tu as la sensation que, en dehors du fait que tu aies plus de temps, le fait d'avoir aujourd'hui des journées complètes à te consacrer, en dehors de l'aspect structurel, etc., ça t'a permis de pouvoir adopter d'autres façons de travailler ?
C'est sûr que je perds en efficacité. C'est-à-dire que je vais peut-être me perdre plus dans des détails où je vais me dire « Ah, j'ai le temps de faire telle recherche sur tel aspect, je vais peut-être me perdre un peu, donc il faut que je fasse attention à ça, parce que c'est pas ce dont j'ai envie non plus. » Donc oui, je perds quand même le côté « Ouh là là, faut que je me dépêche. J'ai qu'une journée pour reprendre toute ma partie, donc go. » Et parfois, je suis un petit peu nostalgique de cette période où je faisais beaucoup de copies pour des concours. On en revient en concours et où j'avais 6 heures devant moi. Et donc le chrono, et à la fin des 6 heures, je rendais ma copie, quoi qu'il arrive. Et c'était comme ça. Et j'avais mon plan. Je savais que première heure à deuxième heure, je faisais mon plan. J'écrivais le grand 1, grand 2, grand 3. Et je me revois face à ma feuille où bah, les mots viennent pas tout à fait. Bah, tu fais une autre formule de phrase. Tu le dis quoi qu'il arrive, tu ne veux pas laisser un blanc. Et là, il y a vraiment quand même un peu cet océan de bon, je peux rester 4 heures sur un chapitre.
Mais tu pourrais te créer cette contrainte-là.
Ouais.
Il n'y a que toi qui décides finalement.
Ouais, mais c'est un peu compliqué quand tu sais que c'est un peu pour de faux. Et que de fait, tu as le temps.
Pour de faux, dans quel sens ?
Ben, personne ne va m'arracher ma copie. Ah quand oui. Tu passes ta copie, on te l'arrache de force.
Oui.
Là, personne ne m'arrache ma copie de force au bout de 6 heures. Et donc j'essaie quand même de regarder un peu l'heure à laquelle je commence et à laquelle je finis pour pas me perdre dans des vortex d'inefficacité sur mon texte. Et je me connais plutôt bien, donc ça va. Mais
t'as des techniques, tu vois. Par exemple, je sais que chez Mademoiselle, il y a un truc que par exemple Mimi adorait, c'était la technique Pomodoro, tu vois. En fait, elle écrivait à fond pendant 25 minutes, et tu sais, tu fais 5 minutes de pause, elle fumait une clope, elle revenait 25 minutes. Ou vraiment, toi, tu te dis, je me pose dessus.
Moi, je continue jusqu'à ce que je perde ma concentration.
Okay.
Je fais ça en prépa. C'est-à-dire que je déteste faire les choses à moitié. C'est-à-dire que soit je travaille, soit je travaille pas. Mais il y a
la personne intense.
Intense. Mais il n'y a pas d'entre-deux de genre, je travaille un peu, mais en même temps pas trop, mais en même temps je suis un peu sur mon tel, etc. En fait, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Si je sens que je me déconcentre et que pendant plus de 5 minutes, je fais autre chose, c'est-à-dire que pendant plus de 5 minutes, finalement, je suis en train d'envoyer un texto, je ferme mon ordi et je fais autre chose. Je vais faire un thé, j'appelle, je fais autre chose. Et après, quand je m'y remets, je m'y remets. Mais quand je travaille, je travaille. Et quand je ne travaille pas, je ne travaille pas. Et le truc, c'est d'essayer d'accepter que parfois, je vais bosser que 2 heures.
Ouais.
Et qu'au bout de 2 heures, bah, en fait, je suis cuite, je n'en peux plus. Et bah non, là, je suis déconcentrée et dire, bon, bah, tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu n'as bossé que 2 heures de toute la matinée, ce n'est pas grave. Essaie de ne pas te flageller, ce qui est difficile pour moi. Range ton ordinateur, fais une lessive, va faire un footing, fais autre chose, et après, tu t'y remets.
ça fait deux fois que tu mentionnes le footing.
Ah oui, non, en plus, trop pas.
C'est vrai?
Non, c'était juste pour pas donner que des exemples, genre, je fais une pause pour vider la vaisselle et faire une lessive, mais c'est un peu le cas. Okay. Je fais genre, super tes pauses, Maud, hein, c'est très fun, hein. Tu dis, allez, je m'octroie une pause, je vide le lave-vaisselle. Oh, qu'est-ce que ma vie est fun.
Mais tu fais comment pour spoiler, mais en fait, je vous donne les coulisses, mais à la base, on avait pensé faire un hors-série sur la créativité.
Tout à fait.
Et en fait, je me demandais un petit peu, est-ce que de ce fait-là d'avoir du temps, t'as créé des trucs où tu vas ressourcer ta créativité?
Non.
Ok.
Je réfléchis.
Est-ce que ça va avec le fait d'avoir du mal à kiffer?
Ça veut dire quoi, ressourcer sa créativité?
Bah,
si je lis plus.
Ouais, ça peut être ça. Ça peut être, peu importe, des trucs en fait qui te nourrissent d'une autre manière.
Bah, non, pas tant que ça, parce que ce qui me nourrissait beaucoup, c'était quand même mon travail.
Ouais.
Parce que ce qui me nourrissait, c'est les gens et la vie quotidienne. Donc, il n'y avait rien qui me nourrissait autant que aller à la cantine et entendre mes collègues raconter des trucs et me dire oh, « oh, oh, ça ferait une super scène » et de prendre des notes. Donc, forcément, je suis moins nourrie quand je suis seule chez moi.
Okay.
Donc, ce qui va me nourrir, c'est quand même d'aller boire des cafés avec des copines, d'écouter des podcasts, de lire, de regarder des séries et beaucoup bah, la vie. Donc là, c'est vrai qu'il y a moins de vie dans ma vie. Mais là, j'ai pas tant un problème de matière première qu'un problème d'écriture.
Oui.
Donc j'ai déjà pris toute ma matière, j'ai écrit des pages et des pages. Et là, il y a beaucoup de restructuration, de faire grandir des personnages, en faire disparaître d'autres, etc. Donc en fait, là, j'ai pas franchement besoin de nourrir ma créativité de nouvelles idées. Des idées, j'en ai eu plein.
Ouais.
C'est plus de travailler ma matière.
Et alors ta structure, par exemple, comment tu la visualises? T'as un mur chez toi avec où t'as collé des post-it, etc. Où tu prends les bouts, tu les changes, etc. T'as une map, mind map.
Non, c'est marrant,
c'est
mais
juste dans ta tête.
Un ami m'avait suggéré de faire ça en mode tu devrais faire comme dans les trucs policiers et tout sur un mur. J'étais en mode ouais, grave, ça a l'air stylé, mais je l'ai pas fait. Donc non, en fait, ce que je fais, c'est que j'imprime beaucoup. Donc j'ai différentes parties dans mon texte et je les imprime. En fait, je me force à finir des versions. C'est-à-dire de faire la V7, 8, 9, 10 et de me dire elle est terminée. Et de ne pas laisser des trucs en chantier. Même si c'est inabouti, même si je sens que ça ne va pas, je me dis ok, je l'ai fini, hop, elle est terminée. Je l'imprime. Et après, je passe à une autre partie pour penser à autre chose et pour m'aérer. Et après, le temps que je reprenne la première partie, c'est déjà passé 3 mois en fait, le temps de bosser sur les autres. Et là, je relis, je suis en mode oh, oh, ça ne va pas du tout. Je modifie et hop, je reprends. Donc c'est un peu je jongle d'une partie à l'autre pour essayer de me recréer un regard un peu frais. Donc je suis pas du genre à écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et après c'est de finir tout bien mes chapitres et d'avancer. C'est plutôt tout est un peu encore work in progress au fur et à mesure.
OK.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Trop bien, hein?
Et toi?
Écoute-moi, comme je le disais un peu dans l'épisode précédent, c'est que, en gros, j'ai vendu Mademoiselle avec la volonté de le quitter en même temps. C'est un truc qui se fait pas beaucoup pour les gens qui savent pas. Généralement, quand tu vends une boîte, on va dire les acheteurs vous verrouillent entre guillemets pendant 1, 2 ou 3 ans et en fait viennent parce que c'est important de racheter aussi une boîte avec son fondateur, etc. Et en fait, vous mettez un bonus, c'est-à-dire que tu gagnes des sous si tu restes 1, 2 ou 3 ans en plus par rapport au prix d'achat initial. Comme a priori, moi, j'avais plutôt besoin et envie de retrouver ma liberté par rapport à ce projet et de plus rester dedans parce que c'était trop tard, c'était passé trop de choses pour moi et il était temps de partir, je cherchais un acheteur qui soit prêt à me laisser partir aussi. Et c'était d'ailleurs ma condition sine qua non. Et le pendant de ça, c'est que je suis parti sans vraiment savoir ce que je voulais faire après. Tout ce que je savais, c'était que, c'était impossible pour moi de me projeter dans un autre projet avant de l'avoir totalement vendu Mademoiselle, parce que c'est comme si tu vois, t'es en train d'écrire,
bien
on
sûr.
En parlait de l'idée, c'est comme si t'étais en train d'écrire un, c'était horrible. Et tu vois, j'ai commencé à phosphorer Mademoiselle à l'époque où j'étais encore salarié sur la fin de mon salariat. C'était frustrant au possible, en fait, d'être coincé au bureau X heures par semaine. Et je me souviens très bien, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que j'ai pris une semaine de vacances pendant mon préavis. Et en gros, le service RH m'a appelé au début de ma toute dernière semaine où moi j'arrivais, j'étais là. La libération arrive. Déjà, ils m'ont filé un préavis de 3 mois, ce qui était très long, quoi. 3 mois de coincé dans une porte, c'était chiant, parce que j'avais vraiment envie de partir. Et en gros, le lundi de la dernière semaine, les RH m'appellent en me disant, en fait, comme t'as pris une semaine de préavis, de vacances pendant ton préavis, ça va prolonger ton préavis d'une semaine. Et je me souviens, j'ai raccroché, j'ai pleuré tellement j'étais.
Alors que tu peux dire une semaine. Qu'est-ce sur tant d'années.
Là,
mais
j'étais
c'est la
je me retenais de me lancer à corps perdu dans Mademoiselle et tout. Donc bref, ça avait été compliqué pour moi à gérer, et je savais pertinemment que je ne voulais pas me projeter dans quoi que ce soit d'autre tant que j'étais à la tête de MAD, parce que déjà, y avait besoin que je sois là et que je sois efficace, pas que je sois en train de penser à autre chose, pas que je sois en train de penser à vivre autre chose dans ma vie, etc. Et donc, quand j'ai quitté, j'ai repris mes podcasts sous le bras. J'avais Histoire de Daron, Histoire de Succès à l'époque. Mimi m'a dit, écoute, moi, ça fait quelques mois que je veux plus faire de Boys Club. Si tu veux, je te le laisse. Et fais-le tout seul, fais-le entre mecs, là, ça sera très bien. Et donc, j'ai repris aussi Histoire de Mec, et je me suis dit, bon, je vais commencer comme ça, quoi. Je vais faire ça un peu à côté. C'est bien parce que je commençais un peu à monétiser. Et en fait, je me dis, ça fera un peu, rentrer un peu de sous, c'est sympa et tout. Puis c'était cool aussi parce que ça me permettait de pouvoir structurer une boîte d'entrée, tu vois, d'aller voir mon expert et dire, en fait, je voudrais créer une boîte qui soit à moi, etc. Bref, il y avait le terreau quand même pour créer quelque chose. Mais en attendant, je crois que j'ai mis quasiment 1 an avant de me dire, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est avril 2021, tu vois, donc j'ai vendu en juillet 2020. Avril 2021, je me suis vraiment dit, ok les gars, j'ai envie de devenir créateur de contenu. J'ai appelé tout le monde autour de moi en leur disant « Ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire !»
J'ai trouvé.
Et tout le monde m'a rionné parce qu'ils ont dit « Mais c'est exactement ce que tu fais donc depuis des années, what's new ?» Alors que pour moi, c'était complètement différent parce que je me vends entre guillemets en mon nom. Là. Je publie des trucs en mon nom. Là où jusque-là, certes, c'était moi qui faisais les vidéos, les articles que je pouvais écrire, etc. Mais en fait, il y avait Mademoiselle derrière en permanence. Et ouais, comme je disais, je me suis vraiment pris la tête autour de tu veux démarrer, tu veux y aller doucement, tu veux y aller keep cool, et tu veux surtout faire en sorte de trouver de la liberté, d'être aligné et de trouver un truc qui te fait kiffer, vraiment. Et je ne suis jamais autant aligné que quand je suis là, à cette place-là. Franchement, c'est un kiff immense. Je sais que je suis dans mon élément et que je suis dans ma zone de confort, où je suis expert, où je suis bon, bref. C'était vraiment génial. Et je suis très heureux, en fait, tu vois, d'avoir réussi à monter ce projet, de pouvoir gagner de l'argent avec, de pouvoir faire des factures, d'avoir des sponsors, etc. Et je sais que c'est une chance immense, en fait, de pouvoir faire ça à 45 ans. J'essaie de me souvenir tous les jours qu'en fait, à quel point c'est une chance immense, où parfois j'ai des trucs un peu durs et tout, où je me dis non, mais où il y a des matins, je me lève et je suis là, j'ai pas envie de travailler. Et parfois il y a des trucs à faire. Il y a des jours aussi où je m'octroie le fait de ne pas travailler du tout de la journée, parce que c'est bon, en fait, tout est fait, qu'il y a des épisodes de podcast d'avance, etc. Et ça, c'est un truc que je faisais jamais chez MAD. Je ne me permettais pas de faire ça. Là où aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, c'est pas ça. Allez, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Et c'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir hacké la vie, en fait, tu vois. Là où, j'en parlais dans l'épisode précédent, mais où j'ai été éduqué au travail, c'est dur, et le travail, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, je me dis juste, le travail, c'est le travail. Et j'ai beaucoup de chance de réussir, d'avoir trouvé un truc dans lequel je me sens totalement épanoui et à ma place, où j'ai l'impression de faire du bien au monde, parce que il y avait aussi de ça, j'avais envie de continuer à faire ça, parce que je crois que j'ai fait beaucoup ça avec Mademoiselle, et de pouvoir apporter des choses aux gens, et qu'en plus, ça me permette de pouvoir gagner des sous. Franchement,
pas mal.
Que demande le peuple ? Pas grand-chose d'autre, en vrai.
Et donc, c'était plus facile pour toi, pour reprendre le thème de l'épisode sur se relancer dans un nouveau projet, plus facile, plus dur. J'ai l'impression que c'était plus facile pour toi, parce que tu savais un peu plus qui t'étais, ce que tu voulais.
Alors, oui.
Fastoche, genre, je sais que je veux pas embaucher 10 personnes, que je veux pas.
Mais ça, je te dis tout ça aujourd'hui parce que ça fait 3 ans. Mais en fait, entre temps, il y a eu des soubresauts et des secousses assez énormes où, déjà, j'ai pris 2 mois et demi de vacances, tu vois, pendant l'été 2020. Je suis rentré mi-septembre. J'avais trop envie d'en découdre et de revenir. En fait, vraiment, c'était super parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé chez Mademoiselle. Et je me suis notamment débarrassé de mon mal de dos que je traînais depuis 5 ans. Il y avait des jours où je n'arrivais même pas à me lever tellement j'avais mal au dos. C'était incroyable. J'ai fait tous les kinés, les ostéos, les machins, les médecins du sport de Paris, de Belgique, de Lille. Enfin, vraiment, je me suis fait suspendre par les pieds. Enfin, des délires.
J'imagine bien la scène du cochon pendu.
Oui, exactement. Et en fait, pendant l'espace de ces 2 mois, mon mal de dos a totalement disparu. Incroyable, hein. Et donc
pardon, je te coupe, mais on parlait du kiff et la difficulté de kiffer. 2 mois de vie de vacances, c'est trop bien. Ça, c'est un vrai kiff.
Ouais. Mais
enfin, cool. Jamais fait, moi. C'est super.
Bah, n'hésite pas. Je te conseille grandement.
Et voilà, je note. Hein. J'ai jamais fait.
Je te conseille grandement. Je suis parti 1 mois avec mes filles. Et puis après, 1 mois et demi tout seul, quoi. Ou en couple. Ou avec quelqu'un. Et c'était super. Et franchement, oui, c'était. Et tu vois, je m'étais dit, ok frère, t'as bossé comme un âne, maintenant c'est le moment de kiffer, quoi.
Ouais.
Et en fait, en rentrant, ça a été vraiment d'affronter le vide et d'affronter. Ouais. Ok, en fait, moi j'ai envie de remplir mes journées, mais en fait, je remplis mes journées de quoi maintenant? Parce que, en vrai, j'avais 3 podcasts à faire tourner. Je travaillais relativement vite, c'était hyper facile à faire. Et après, j'avais rien d'autre à faire. Et je me souviens très bien que, je crois qu'en octobre, il y a ce jeu vidéo Hades qui est sorti. Et je l'ai installé un peu par hasard sur mon ordinateur. Et je me suis perdu dedans pendant 3 jours. Et je n'ai rien foutu. Et c'était un kiff. Et en fait, ça a vraiment été un énorme déclic pour moi parce que je me suis dit, attends. Donc, tes podcasts sont prêts pour la semaine prochaine et même pour la semaine d'après. T'as rien de spécial à faire. Juste, t'as envie de jouer à ce jeu vidéo. Let's go, mon pote.
Hades, c'est parti.
Hades, tu le défonces. Et pendant 3 jours, mais vraiment, tu vois, limite à la douche, c'était compliqué, quoi. Tu vois, vraiment, j'étais dans ce...
Ça me donne envie de jouer à ce jeu.
Ce jeu est incroyable.
Il faut faire quoi dans Hades?
C'est ce qu'on appelle un roguelite, n'est-ce pas? Où, en gros, c'est extrêmement macabre, puisque tu reviens toujours à zéro. Et en fait, tu continues à progresser dans le jeu, qui est plus ou moins à chaque fois le même parcours, avec plein de différences, parce que tu prends des armes différentes à chaque fois, qui te rendent l'expérience différente. Et en fait, plus tu progresses, plus tu gagnes des armes, plus tu gagnes de l'expérience, plus tu gagnes machin, plus le jeu devient difficile, plus t'es récompensé fort parce qu'en fait tu gagnes. Bref, c'est ma cam 20 000, quoi, vraiment.
La métaphore de toute notre discussion.
Oui, exactement.
Si j'étais romancière, je me dirais, oh là là, cette scène avec mon personnage qui joue à Hadès,
oui,
qui est une vraie métaphore de tout son parcours.
Je te l'offre, c'est cadeau.
C'est gentil.
Mais oui, il y a vraiment un vrai truc derrière. Et ce jeu m'a vraiment aidé à dégoupiller un truc où je me suis dit, mais mon gars, t'es pas obligé de remplir tes journées pour faire semblant, en fait. T'es dans une phase de ta vie où t'as bossé comme un taré pendant 15 ans, tu t'es donné corps et âme à ce projet. En fait, t'as du temps, t'as le droit de prendre du temps pour toi. Et ça, mais ça a été tellement compliqué de switcher dans ma tête, vraiment. Ça te parle?
De fou, j'ai envie de te dire. J'en parle souvent avec une amie qui s'appelle Léa. Et toutes les deux, on a fait une prépa et on a vu à quel point ces années ont un peu structuré notre cerveau et nous ont aussi un peu fucked up. Parce qu'on en parle souvent toutes les deux. On date un peu de cette période, le moment où on a développé un rapport au travail un peu malsain de moi incapable de kiffer. Je suis incapable de prendre des vacances, c'est un vrai problème. Quand je ne travaille pas, je culpabilise. J'ai besoin de rentabiliser, d'être productive, que chaque moment soit un moment ouais, productif. Et donc l'idée de, tu vois, une semaine de vacances, c'est dur pour moi de partir en vacances, hein. C'est vraiment dur, hein. Et l'idée de kiffer sur un jeu vidéo pendant 3 jours, je suis genre, waouh, il est trop rebelle, oh là là. Enfin, je comprends ton vertige. C'est pas du tout naturel chez moi.
Mais tu sais, il y a un truc qui est structurant aussi dans tout ça dont je n'avais pas parlé, c'est que, en gros, mon ami dont j'ai parlé dans les épisodes précédents, qui était aussi mon associé, etc., il est mort d'une crise cardiaque en l'espace de 10 minutes en février 2019, ce qui m'amène à vendre ma boîte, ce qui m'amène à me séparer de ma femme. Alors, pas que ça, mais en tout cas, ça m'amène vraiment à venir me dire, ok, c'est quoi la vie que je veux ? Et elle aussi, d'ailleurs, s'est demandé, parce qu'elle le connaissait très bien, ok, c'est quoi la vie que je veux ? Et de te dire qu'en fait, la vie peut s'arrêter aussi brutalement sur l'espace d'un déjeuner. Tu sais, j'ai toujours ce truc où vraiment, je n'ai pas terminé cette conversation téléphonique avec lui. En fait, on était en train de parler ensemble au téléphone. Je lui dis, écoute, je suis désolé mon vieux, mais j'ai un déj là, je te rappelle juste après. Eh bien, une conversation ne sera jamais terminée, quoi. Et tu vois, de te rendre compte, c'est à la fois été super dur pour moi, mais c'est un cadeau immense qui m'a fait, je sais pas, sans le savoir ou pas, je n'en sais rien, de me rendre compte que, ok, en fait, la vie, elle est vraiment éphémère et qu'elle peut s'arrêter comme ça. Et en fait, bah moi, j'ai vraiment ce truc de demain, on meurt, quoi. Demain, tu peux mourir.
Bien
et
sûr.
Comment sans pour autant que ce soit une angoisse, tu vois, de mort. Au contraire, c'est plutôt comment tu fais pour avoir la vie la plus belle possible, en fait, pendant ce temps-là. Et ça peut passer par le travail, mais il faut aussi que ça passe par des moments où, à un moment donné, bah, tu kiffes, en fait, tu vois. Et je sais, tu vois, par exemple, que je fais très attention à ça aujourd'hui parce que je me vois parfois ultra blindé certaines semaines de boulot. Parce que je me suis fixé des objectifs en termes d'argent cette année, que l'année passée j'ai un peu galéré et qu'en fait ça m'a gonflé. Et je sais pourquoi je l'ai fait, parce que je m'en suis pas occupé de l'argent.
Mm-hmm.
Bien sûr, c'est voilà, le cordonnier mal chaussé et tout. Hein. C'est un travail en progrès. Et je sais cette année qu'il faut que je fasse gaffe à ça, parce que je me vois très bien pouvoir repartir dans une boucle de la mort. Alors sans doute pas. Tu vois, il y avait une question de est-ce que tu referais pareil ou pas.
Ouais.
Bah non, en fait, je ne ferais pas pareil, parce que même si ça vient me titiller parfois de « dis donc, t'aurais pas envie de monter un projet avec 30 personnes et de remonter du collectif et de remonter... » Non, le prix à payer, il est trop fort, les gars. Et même si je sais que je le monterais fondamentalement pas de la même façon, que j'aurais pas du tout le même rapport au travail, que j'aurais pas du tout le même rapport à mes équipes, au projet, etc., c'est pas un truc aujourd'hui, en tout cas, qui me fait kiffer. Peut-être que l'année prochaine, on se retrouve là et qu'en fait, j'ai trouvé un projet qui me donne envie d'exploser. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, quoi.
C'est un peu, cet épisode, c'est un peu la boucle sur recommencer, tu vois. On prend les mêmes, on recommence et on repart à l'épisode 1 sur l'idée. Et retrouver une idée qui va tout chambouler ou pas. Avec à la fois, on est peut-être un tout petit peu plus sage de l'expérience qu'on a eue. Et à la fois, tous les cas sont tellement différents et...
Ouais.
Et tu repars à zéro, quoi.
Et ton troisième bouquin, j'espère qu'il sera différent de ton deuxième.
Et oui, et le quatrième, et le cinquième. Mais oui, oui, bah, y a aussi cette question-là de... En tout cas, dans l'écriture, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais d'avoir un peu la peur de refaire le même bouquin. Tu sais, il y a ce cliché un peu de... Ah, tu vas réécrire le même bouquin, que les deux soient trop proches.
Ok.
Il y a un peu ce truc-là dans l'édition et dans l'écriture.
Et en même temps, j'ai un peu l'impression que Guillaume Musso, il écrit toujours plus ou moins les mêmes bouquins, sans vouloir le citer, mais j'ai pas beaucoup lu Musso, mais j'en ai lu 2-3 et à chaque fois je me disais, c'est un peu kiff-kiff, tu vois, c'est un peu toujours la même trame, etc. Mais ça
et
n'empêche
je trouve
pas
que ça s'applique à Musso et à beaucoup d'auteurs que j'adore et que je lis, tu vois, dès qu'ils sortent un livre. En fait, on a un peu toujours les mêmes obsessions et toujours les mêmes thématiques et on tourne autour et c'est très chouette.
Mais tu tournes autour, donc c'est pas le même bouquin.
Mais c'est pas le même bouquin.
C'est un pas
mais
de côté.
Mais il y a un peu ce truc dans l'édition. Hein. Et peut-être il y a un peu ce cliché aussi de est-ce que t'as qu'un seul bouquin en toi ? Genre, il y a beaucoup de trucs comme quoi, oui, tu sais, facile, entre guillemets, d'écrire un très bon premier roman parce que, en fait, c'est. Et il se dit que le premier roman, c'est le plus autobiographique et très perso. Et...
Ah, bravo, Maud.
Plus pas du tout, mais parce que pour le coup c'est vraiment une fiction et je suis pas à l'aise dans l'autobio, mais en gros il se dit un peu est-ce que t'as un deuxième livre en toi, c'est un peu, tu vois, ce qui se dit dans le milieu de l'édition. Et donc, je trouve que c'est voilà, des questionnements à...
Bah, je vous mettrai un lien vers une interview d'Olivier Bourdeau que j'ai faite, qui est diffusée ce matin à l'heure où on enregistre cet épisode, dans Histoire de Daron, où on parle justement de son rapport à son père violent. Et en gros, lui, il a écrit 3 bouquins de fiction. Alors, avec le recul, il se rend compte que c'est peut-être pas tant de la fiction que ça, tu vois. C'est intéressant parce que ces bouquins, ils ont maintenant plusieurs années. Et là, il se rend compte en fait qu'il a envie d'écrire sur son père notamment et sur sa vie et sur son père violent. Et il a un peu cette, à la fois cette culpabilité. Je trouve ça trop intéressant, tu vois. Il a à la fois un peu cette culpabilité de se dire, bah, en même temps, c'est pas mon histoire. Et d'un autre côté, bien sûr que si. Et d'un autre côté, c'est un peu facile. Et en même temps, bah, le gars, il m'a quand même donné des billes de scènes de vie incroyables que si j'étais scénariste dans une série Netflix, je me dirais, mais...
J'oserais pas imaginer
ça.
Tu
vas un peu loin, quoi, tu vois. Et vraiment, c'est le cas. Et je trouve que, tu vois, lui, aujourd'hui, il a 43 ans. J'imagine que s'il écrit là-dessus, ça sera complètement différent de ce qu'il a pu faire auparavant. Il va devenir papa, peut-être même qu'il l'est là à l'heure où on écrit, on est en train d'enregistrer, pardon. Et il y a plein de choses qui se passent dans la vie.
Ouais, tout à fait.
Et toi aussi, dans ta vie de femme, il y aura plein de choses qui vont se passer.
Tout à fait.
Qui vont t'amener à vivre d'autres choses et à forcément, ça va avoir un impact sur ton travail. Est-ce qu'on a tiré des leçons ?
Ouais, moi je renomme bien mes documents Word.
Ok. Ah ouais ?
Ah ouais, de ouf.
T'as fait ça ?
Ah bah en fait, le premier, donc mes chapitres, ça, dans mon premier livre, ça s'appelle lundi, mardi, mercredi, etc. Parce que chaque chapitre est un jour de la semaine. Et autant te dire que j'avais lundi, V37, V1, V lundi, bis, ok, 2. Et donc je recommençais à modifier le mardi et en fait je me rendais compte que j'avais... C'était pas la dernière version en date, c'était un bazar. Et okay. Ça, je me suis dit, non, mais plus jamais. Donc là, je renomme mes documents avec la date. Enfin, j'ai un système qui fonctionne pour moi et qui est moins le bazar. Donc oui, tu vois, on tire des leçons. Et même en termes de un peu manière d'écrire, j'ai toujours un document brouillon à gauche parce que je travaille sur Mac. Donc je fais un petit mouvement de main pour faire passer d'un écran à l'autre avec une feuille de brouillon et le texte sur lequel je suis en train d'écrire pour... si j'ai des choses à modifier ou à supprimer, hop, je le mets. Parce qu'avant, j'étais en mode, est-ce que je supprime ? Bah oui, je supprime, mais en même temps, j'aime bien. Hein. Donc là, hop, si j'ai un doute, de toute manière, je le supprime, mais il n'est pas perdu pour toujours. Dans 99,9% des cas, je ne le remettrai jamais de toute manière, donc c'est purement psychologique. Mais si, à un moment, je me dis, ah, j'ai quand même supprimé ce paragraphe, il était pas mal, je fais pomme F, et je le retrouve, et je le remets. Donc il n'y a pas de drama. Mais bref, donc il y a quand même des petites techniques qui font que je suis plus... alertes avec l'outil informatique, j'ai envie de vous dire. Et après, on a quand même un peu la confiance de se dire, bon, j'ai réussi à aller au bout de mon texte long une fois, et je sais que c'était un processus. Et j'ai fait un effort assez intense en ce moment de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, en me disant, oui, ça a été dur aussi au milieu. Parce qu'il y a aussi ce côté où tu vas comparer, je vais comparer un texte sur lequel j'ai bossé pendant 3 mois, un livre que j'ai mis 3 ans à écrire. Donc forcément, je me dis, mais je suis devenue nulle. Là, c'est nul ce que j'ai fait par rapport à ça qui était beaucoup plus abouti. Je dis, bah oui, mais enfin, il y a 3 ans de travail entre. Donc tu peux pas comparer les deux. Donc j'essaie de me dire, oui, quand j'écris mon mari, il y avait des longues phases de work in progress et c'est normal. Et c'est dans le processus que les choses se décantent. Et donc j'essaie aussi de faire confiance au temps. Et ça, c'est très dur parce qu'il y a des moments un peu traversés du désert en disant, là, je sais pas, je sens qu'il y a un déclic que j'ai pas eu dans le texte, je sens qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais je sais pas quoi. C'était pareil sur mon mari, et j'ai fini par avoir les déclics. Donc c'est juste avoir confiance et se dire, ça va arriver. Et de fait, là, c'est arrivé, donc je suis très contente.
Ça viendra.
Mais voilà, quand même se reposer un peu sur les appuis du premier pour me dire, ok, c'est pas ton premier rodéo, accroche-toi, ça va aller. Trop pareil, bien. J'imagine aussi que tu te dis, j'en ai vu d'autres.
Alors, vraiment,
j'en ai vu d'autres.
Par rapport au rythme, souvent les gens me disent waouh, t'as plein de podcasts en même temps. Et je suis là, mais les gars, par rapport à mon rythme de travail chez Mademoiselle, c'est d'une simplicité, quoi. C'est
une promenade de santé.
Bah, je veux pas dire ça non plus, parce que ça serait, mais juste en comparaison, ouais, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, si j'avais pas autant de podcasts, je crois que je m'ennuierais en même temps. Donc, il y a aussi un côté. un peu boulimique de faire des choses et de produire des choses. Et d'un autre côté, je sais que je le fais de façon beaucoup plus écologique pour moi et de façon beaucoup plus responsable pour ma pomme que ce que j'ai pu faire auparavant, où je suis pas dans une frénésie de comme une souris dans une roue, quoi, tu vois, d'aller à fond, quoi. Pas du tout. Ouais, bien sûr. Et surtout, après, en termes de production, de technique, etc., enfin, tu vois, j'ai appris tellement de trucs pour aller vite, pour savoir quoi déléguer, les trucs que j'ai envie de déléguer, les trucs que j'ai pas envie de déléguer. Y a parfois où je décide de faire des montages moi-même, parfois je décide de les filer, et parfois je sais même pas pourquoi je décide de le monter moi-même, je dis juste, il y a un truc en moi qui me dit délègue pas ça, donc je fais confiance à mon intuition. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris à faire beaucoup ces trois dernières, on va dire ces 5-6 dernières années, c'est vraiment à beaucoup plus faire confiance à mon intuition. Là où avant, j'écoutais très peu. Pourquoi faire, après tout, hein ?
On ferme les écoutilles, ça va aller, ça va aller, ça va aller.
Jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter ? On a parlé de plein de trucs. Hein.
Eh ben, on prend les mêmes et on recommence. C'est un peu ça. Hein.
Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais.
Jeudi prochain, 6h du matin, on va parler de mener sa barque. Une fois que, on va dire, vraiment long terme. Et ce sera le dernier épisode.
Ce sera la dernière fois qu'on se retrouve.
See you la semaine pro.
À la semaine prochaine.
Bisous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.